La vie chrétienne est un chemin compliqué, un chemin étroit, dirait Jésus. Il est plus naturel de se couler dans le moule de tout le monde. Il est plus facile de copier les modes et les habitudes de notre époque. La vie chrétienne est une voie difficile, un sentier resserré. Il n'est pas facile de se laisser transformer pour adopter une attitude intérieure différente. Il n'est pas facile de donner à nos pensées une nouvelle orientation. Non, la vie chrétienne n'est pas un chemin tranquille. Cette année, au groupe de jeunes positifs, c'est ce thème-là que nous avons choisi d'aborder sur la base du texte que Timothée vient de nous lire. Avec en plus tous les défis supplémentaires, j'ai envie de dire, que la jeunesse représente dans cette voie difficile. Tous les défis qui arrivent quand on est jeune et qu'on veut prendre au sérieux ce chemin de la foi chrétienne. Et alors nous nous sommes posé cette question que nous ont posé Élise et Marou. Être jeune et chrétien, est-ce une mission impossible? Et nous avons vu, ou nous allons voir, puisque l'année n'est pas finie, sur cette question-là, différentes problématiques, différents défis. Être jeune et chrétien face à mon image, l'image que j'ai de moi-même. Être jeune et chrétien face à mes parents, face à mes amis, face à Dieu, face à mes responsabilités, face à mon temps, et ainsi de suite. Jeune et chrétien en face de tous ces défis, un programme qui remue bien. Et alors aujourd'hui, pour ce temps de culte des jeunes, nous voudrions partager notre réflexion à ce sujet avec chacun d'entre vous. Car on s'en doute, de telles préoccupations ne se limitent pas bien sûr aux jeunes, même si les défis peuvent prendre des formes différentes selon l'âge. Mais avec donc cette question que nous vous proposons ce matin, vivre en chrétien aujourd'hui dans ce monde, est-ce une mission impossible? Vivre comme Jésus nous le demande. Vivre comme Paul nous le demande dans ce texte de Romains 12. Est-ce irréalisable? Et je le relis ce texte. Mais cette fois-ci, je vous le relis à la deuxième personne du singulier pour qu'on se sente bien tous concernés. Je te demande, dit Paul, à cause de la bonté que Dieu t'a témoignée, de lui consacrer ton être tout entier, que ton corps, tes forces et toutes tes facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Ne te coule pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne copie pas les modes et les habitudes du jour. Laisse-toi plutôt entièrement transformer. Adopte une attitude intérieure différente. Donne à tes pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de toi. Ainsi, tu seras capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui te conduit à une réelle maturité. Voici le programme qui se trouve devant toi. Voici le programme, qui se trouve devant chacun de nous si nous voulons vivre en chrétien aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est une mission impossible, mais en tout cas, il n'y a aucun doute que cela représente un vrai défi. Parce qu'on le voit bien, rien n'est moins naturel dans notre vie que de vivre de cette façon-là. Et au contraire, il nous est beaucoup plus facile d'atténuer ce genre de paroles, ou alors de les regarder de plus loin. Mais le problème, quand nous faisons cela, c'est que nous avons vite fait de donner libre cours en nous, et les filles nous en ont parlé à l'instant, à ces comportements double face, pourrait-on dire. C'est-à-dire à ces comportements où on va déconnecter nos convictions et nos affirmations de foi, de nos attitudes et de nos quotidiens. Quand on proclame la seigneurie de Jésus sur nos vies, mais quand au jour le jour, on préfère faire le tri dans ses paroles. Chers amis, vous arrive-t-il de faire cela? Vous arrive-t-il de vous comporter en chrétien double face? Et je crois que nous sommes un peu tous accusés. Le moins possible, on peut l'espérer. Ou plutôt de moins en moins, ce qui serait un bon signe de croissance spirituelle, mais quand même un peu tous, car c'est là l'essence du péché qui nous concerne. Mais pour autant, puisque ça nous touche tous, cela veut-il dire qu'il nous faut donc considérer cette réalité comme une fatalité inévitable à la vie chrétienne? Une fatalité dans laquelle on n'aurait plus qu'à se complaire de vivre avec nos doubles faces. Et non, je ne le crois pas non plus. Oh, certainement, nous n'éradiquerons pas de manière absolue tous ces comportements dans nos vies, mais je suis convaincu malgré tout que nous pouvons avancer résolument dans la bonne direction et même remporter de vraies victoires durables sur toutes nos doubles faces. Et ce matin, c'est vers cet objectif-là que nous voudrions nous encourager à aller toujours plus. Ce matin, avec les membres du groupe de jeunes positifs qui vont défiler tout au long de ce temps de culte, et qui, je le précise d'ailleurs, ont construit eux-mêmes les différents temps qu'on va avoir dans ce culte et qui ont choisi ce thème à partager avec vous. Ce matin, nous voudrions ensemble nous inviter à aller vers une vie de foi toujours plus authentique, toujours plus cohérente, une vie de foi qui rejette toujours plus toutes ces attitudes comme tout le monde. Et pour cela, dans un premier temps, on va justement essayer de relever quelques lieux où il nous est quand même facile de glisser vers une double face. Peut-être pour susciter les bonnes questions en nous. Et puis ensuite, nous proposerons à tous un remède en trois temps pour grandir en cohérence. Et puis évidemment, vous vous en doutez, les filles l'ont déjà dit, culte des jeunes oblige. Ne soyez pas étonnés si l'ordre et le format habituel de notre culte se trouvent aujourd'hui légèrement bouleversés. Mais bon, commençons, comme on l'a dit, avec quelques exemples. Sans chercher du tout à être exhaustif, il y en aurait d'autres. Mais on voudrait quand même relever trois points. Trois lieux qui nous ont semblé prompts à une attitude double face. Trois dangers dans lesquels, sans doute, on peut facilement vivre un décalage. Dans une vie où on prend vite le pli de ce qui se vit autour de nous, serez-vous prêt à relever le défi d'une mission impossible? Je laisse la place aux jeunes qui vont nous présenter ces trois situations, toute ressemblance avec certains aspects de nos vies sera bien sûr tout à fait volontaire. Et même si le trait est évidemment à la caricature, je me dis qu'au fond, les choses ne sont peut-être pas toujours si éloignées de cette réalité-là. Et je vous propose de revenir brièvement sur chacun de ces trois lieux à risque qu'on a voulu relever ce matin. Le premier défi concerne nos comportements, nos attitudes, nos façons d'être dans ce monde et face aux autres. Et je ne parle pas bien sûr des attitudes du dimanche matin, où on est tous très bien. C'est évident. Mais de celles que l'on a quand on sait qu'il n'y a pas d'autres chrétiens à l'horizon. Le sketch prend comme exemple la moquerie de Victorine, mais d'autres comportements, c'est certain, sont à épingler dans cette même catégorie. La colère, la susceptibilité, le ressentiment ou la rancune, ou encore le mécontentement de tout ordre. Ou, plus subtilement, la volonté de défendre toujours ses propres intérêts. Ou encore, le manque de compassion envers celui qui, bien entendu, l'a bien mérité. Ou comment se laisser emporter par nos réactions habituelles. Ou comment faire, tout simplement, comme tout le monde. Et cela nous remet, bien sûr, en question. Et cela nous demande en particulier, mais en fait, comment est-ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on considère l'autre qui est à côté de nous? Si on creuse un peu, comment le voyons-nous? Comme un ami? Comme un concurrent? Comme un faire-valoir, peut-être? Ou quoi que ce soit d'autre? En tout cas, sans doute pas toujours comme mon égal dans le cœur de Dieu, comme mon égal dans l'amour que Dieu lui porte. Et peut-être me faut-il comprendre davantage que Dieu ne m'aime pas plus que celui que je côtoie tous les jours à côté de moi. Il ne m'aime pas moins, bien sûr, Et ça, on aime bien le savoir. Mais il ne m'aime pas plus non plus. À méditer, peut-être. Le deuxième risque de double face, illustré par Christopher dans le second sketch, est celui de nos modes de vie, de nos façons de vivre, de manière générale. Et si on en croit les faits, il semble d'ailleurs que ce soit ici un point particulier où les chrétiens ont encore beaucoup de progrès à faire. J'avais lu quelque part qu'un sondage avait été réalisé aux États-Unis et qu'il révélait que les croyants américains, eh bien, finalement, vivaient plus ou moins comme tout le monde, dans leur choix de vie, dans leur mode de consommation et dans d'autres choses de cet ordre-là. Il n'y avait au fond que très peu de différence entre être chrétien ou pas. Leur foi n'influait que très peu sur leur façon de vivre. Et alors, on pourra toujours se rassurer en se disant que ce sont les Américains, mais quand même cette réalité vient nous interpeller. Parce que si on lit la Bible, et ne serait-ce par exemple que les paroles de Jésus, on ne peut pas nier le fait que notre foi est vraiment appelée à influencer nos façons de vivre, à influencer notre rapport aux choses de ce monde. Car soyons clairs, être chrétien, ce n'est pas juste une couche de vernis qu'on vient rajouter à une vie en tout point conforme à celle de nos contemporains. Ce n'est pas cela. Non, être chrétien, c'est une vraie révolution, un vrai changement de perspective de vie. Cela doit donc, logiquement, se voir dans nos façons de vivre. Et dans l'exemple du sketch, nous avons fait le choix d'aborder la question de l'argent, parce qu'on sait combien c'est un sujet sensible, mais en même temps un sujet qui nous concerne tous. Et avec une question un peu dérangeante peut-être qu'on pourrait se poser. Et je nous la pose. Est-ce que, à revenu égal, la gestion de mon argent diffère de celle de mon collègue qui est à côté de moi? Ou bien finalement, est-ce peu ou prou la même chose? Est-ce que ma foi influence vraiment ma façon de dépenser mon argent? Et alors bien sûr, on est évidemment libre de gérer son argent comme on le veut. La Bible nous laisse cette liberté. Bien sûr aussi, et il me semble important de le préciser pour éviter tout malentendu, ce sketch ne veut pas être une condamnation des loisirs, Dieu lui-même ayant instauré le jour de repos. Mais ce que l'on a cherché à dire ici, c'est quand même qu'être chrétien devrait induire dans nos quotidiens un changement de priorité. Et devrait donc nous amener par conséquent à remettre toutes ces choses, l'argent et les loisirs par exemple, dans la perspective d'une vie centrée sur les priorités de Dieu. Si nous ne voulons pas être en décalage avec ce que nous lisons dans les Écritures, nous ne pouvons pas faire l'économie de vivre un décalage par rapport à tous ceux qui nous entourent. À méditer sans doute aussi. Et puis enfin, un troisième type de danger relevé dans le dernier sketch, il concerne pour sa part notre conception de Dieu, de manière plus générale, pourrait-on dire. Il concerne notre façon de voir Dieu, notre façon de le considérer. Et l'exemple du jeune homme, Titouan, qui lit sa Bible de façon très sélective, est certes extrême, encore une fois, et il porte à sourire, mais finalement, là non plus, il n'est peut-être pas toujours si éloigné de ces attitudes que nous pouvons tous avoir vis-à-vis de Dieu. Car parfois, nous sommes tentés de faire ainsi, de sélectionner, plus ou moins consciemment d'ailleurs, les passages bibliques qu'on préfère parce qu'ils nous rassurent, au détriment des paroles qui nous dérangent un peu. Et dans bien des choses, dans des thèmes aussi variés que la question de la justice de Dieu, ou encore celle du pardon qu'il demande aux chrétiens d'accorder sans compromis à celui qui le demande. Ou encore sur la question de la façon dont nous considérons l'Église, sa place, son rôle et la part que je dois y jouer. Mais aussi notre façon de voir Dieu dans des domaines tels que la confiance qu'il nous invite à avoir en lui en toutes circonstances. Ou son pendant négatif concernant l'inquiétude et notre façon de la vivre ou de la surmonter, l'inquiétude. Ou encore enfin, dernier exemple, mais parmi bien d'autres, sur notre conception de la recherche du bonheur, pas toujours pleinement calibrée sur la vision que Dieu a de cette question. Oui, parfois, sur tous ces points, je cours le risque de vivre un décalage entre ma vision et celle de Dieu, entre la conception que je voudrais avoir de Dieu et la réalité de l'Écriture. Mais si nous ne voulons pas nous complaire dans ces doubles faces, il va nous falloir apprendre à voir Dieu tel qu'il est vraiment. Et donc aussi, par conséquent, à nous demander ce qui façonne notre conception de Dieu. Nous-mêmes, nos vécus, nos ressentis, nos aspirations, nos combats, ou tout simplement la Bible. Voilà, pour ces trois points, ces trois lieux, on aurait sans doute rajouté bien d'autres. Mais alors, maintenant que nous avons vu ces réalités, qui, je le répète, nous accusent tous, et je crois qu'on peut le dire, personne n'est au-dessus de tout ça, c'est une certitude. Maintenant, on va pouvoir se demander, pour ne pas juste rester sur ce triste constat, comment faire pour y remédier ? Comment faire pour remédier à tout ce qui pourrait ressembler à ces attitudes dans nos vies ? Quel chemin devons-nous prendre pour les limiter ? Comment diminuer encore et encore ces doubles faces de nos quotidiens et gagner jour après jour en cohérence entre ce que nous croyons et nos actes, entre ce que nous lisons dans la Bible et nos vécus ? Et nous vous proposons donc pour cela un chemin en trois points, un remède en trois temps, pour grandir en authenticité, tant dans notre désir que dans nos actions, et vivre toujours plus en disciple du Christ. Un remède à vivre dans la paix de Jésus, bien sûr, et dans la confiance aussi. Et également un remède à renouveler constamment au quotidien, à nous en imprégner jour après jour. Le premier temps de ce remède sera tout simplement une prise de conscience de ces réalités et une volonté de s'en détourner. Il faut commencer par là, c'est une évidence. La prise de conscience est essentielle. Parce que, pris dans le tourbillon de la vie, on ne se rend peut-être même pas toujours compte qu'on s'est vite laissé prendre par les habitudes de ce monde, qu'on s'est vite laissé conditionner, modeler par le moule de ce monde. Aussi, il nous faut apprendre à jeter un regard lucide sur nos vies et sur nos façons d'être pour voir ce qui pourrait être en décalage avec la volonté de Dieu. Concernant nos comportements, concernant nos modes de vie, concernant notre conception de Dieu ou encore d'autres choses. Et une fois cette prise de conscience réalisée, alors un mot-clé va s'offrir à nous. Une attitude essentielle va venir pointer le bout de son nez pour que notre prise de conscience ne reste pas stérile dans la pratique. Cette attitude, c'est la repentance. Alors la repentance, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une auto-punition, ce n'est pas une auto-flagellation, ce n'est pas faire pénitence. Non, la repentance, c'est reconnaître ses fautes, c'est les avouer à Dieu et c'est chercher à les délaisser. C'est par là qu'il nous faut aller d'abord pour grandir en authenticité et en cohérence. Rien de ce qu'on dira par la suite ne pourra avoir sa juste place s'il n'y a pas en nous cet état premier. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, prenons celui du fils prodigue. Prenons cette célèbre histoire dans Luc 15 pour ceux qui voudront aller la lire. Si on lit attentivement ce texte, on se rend compte qu'il y a un point clé, une phrase clé, qui est le tournant de l'histoire, l'unique point de départ du renouveau de cet homme, l'unique prise de décision qui va l'amener ensuite à goûter à la grâce de son Père. Ce tournant, celui qui va le mettre en route, on le trouve dans l'expression « étant rentré en lui-même ».« Étant rentré en lui-même ». Eh bien ça, c'est la repentance, ce regard sur nous-mêmes et cette volonté de ne pas rester dans ce statu quo. Une première étape essentielle. Mais alors, et il nous faut bien le reconnaître, ce n'est pas toujours facile de vivre une repentance authentique. Il nous faut, on l'a dit, bien sûr admettre ce qu'il y a à changer dans nos vies, mais aussi vouloir vivre ces changements, vouloir se mettre en route dans cette direction. Et c'est une démarche individuelle, bien sûr, personnelle, intime même, devant Dieu. Mais en même temps, je me dis que la communauté est aussi une force pour nous entraîner dans une telle démarche, tous ensemble. Après la repentance comme point de départ, le deuxième temps de notre remède sera le cœur, l'agent actif, pourrions-nous dire. C'est la grâce. La grâce, c'est le lieu qui change tout, c'est le lieu qui dépasse l'entendement. La grâce, c'est ce qui fait que tout existe. Elle est le cœur de tout, le centre de tout, la seule chose qui donne un sens au reste. Et qui fait que l'on ne reste pas sans issue devant ces tristes constats de nos incohérences. Elle est le seul lieu où le pardon est possible. Le seul lieu où la repentance va trouver une réponse, et une réponse positive. La grâce, c'est Dieu qui nous pardonne gratuitement, encore et encore. C'est Dieu qui nous libère de la peine de nos fautes. C'est Dieu qui efface toutes nos doubles faces, qui les jette au loin dans la mer. C'est là, pour reprendre l'histoire du fils prodigue, que le Père ouvre grand ses bras, le cœur rempli d'amour et de pardon, pour accueillir son fils qui revient vers lui. Il ne lui tombe pas dessus, il ne le sermonne même pas, parce qu'il connaît déjà l'état du cœur de son enfant qui revient. Il l'accueille, et même plus, il court à sa rencontre tellement il l'aime. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est ce qui nous donnera la force de nous repentir, la force aussi de vouloir être cohérent. Oui, dirigeons dans ce deuxième temps, ce deuxième volet du remède contre les doubles faces, dirigeons nos regards vers la grâce de Dieu, le fondement et le cadre de toute la foi chrétienne. Centrons-nous au cœur, là où Dieu accomplit la plus grande œuvre qui soit. Et diriger nos regards vers la grâce, c'est bien sûr diriger nos regards vers la croix, le lieu où la grâce a été manifestée, le lieu où le pardon a été offert. Notre repentance doit toujours prendre la direction de la croix, de l'œuvre de Jésus. C'est à la croix que Jésus est mort en sacrifice pour nos péchés. C'est à la croix qu'il a payé de son sang et de sa vie pour que nos fautes et nos doubles faces puissent être pardonnées. Aussi, si nous voulons un remède efficace à nos incohérences, il nous faudra toujours revenir à la croix. Individuellement, dans nos temps personnels avec Dieu, mais là aussi, ensemble, en Église, parce que nous sommes tous ensemble, solidaires, tant dans notre nature pécheresse et dans nos doubles faces, que dans notre unique moyen de pardon. Et ce matin, nous voudrions nous inviter à vivre ensemble ce temps où on prend la direction de la croix de Jésus. Ce temps particulier où on se rappelle que le corps de Jésus fut brisé, que son sang fut versé pour que je puisse être gracié. Un temps où les bras du Père s'ouvrent pour nous. Ce temps, vous l'avez compris, c'est le temps de la Sainte Cène, ce symbole, ce souvenir que Jésus nous laisse pour revenir le plus régulièrement possible au lieu de tous les possibles, au lieu de tous les pardons, là où nous pouvons saisir à pleine main la grâce de Dieu. Et oui, nous voulons vous inviter pendant ce culte des jeunes à vivre ensemble ce temps de la scène pour revenir au cœur, au centre de tout. Et nous allons maintenant partager ces éléments conformément aux paroles de Jésus qu'on vient de lire. Alors on pourrait se demander qui peut prendre la scène. Eh bien, tous ceux qui ont répondu à l'appel du Christ, à l'appel quand il nous dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La scène est pour tous ceux qui ont compris et accepté cette grâce et ce pardon offert à la croix et qui ont choisi de vivre une vie attachée à Jésus. Si c'est votre cas, alors vous êtes invité à la prendre librement et à vous joindre au corps du Christ qui accueille cet évangile de grâce. Si ce n'est pas encore votre cas, eh bien, laissez tout simplement passer les éléments qui passeront. Et puis, avec les jeunes, quand on a préparé ce temps, on s'est dit qu'en fait, on avait quand même souvent tendance quand le quotidien de la vie reprend le dessus, à oublier ces promesses de la grâce, ces réalités tellement profondes, qui, je le répète, pourront, elles et elles seulement, nous faire avancer dans la bonne direction. Aussi, pour ne pas les oublier, nous avions envie de ne pas vous laisser repartir ce matin avec les mains vides, parce qu'il nous faut constamment revenir, nous imprégner de ces promesses de pardon offertes à celui qui se repent. Nous vous invitons à aller voir sous vos chaises pour y trouver un petit quelque chose. Collé sous la chaise, sur le devant de la chaise. Est-ce que tout le monde a trouvé ? Vous le voyez, c'est un verset qui nous parle de la grâce de Dieu, qui nous parle du pardon de Dieu. C'est un verset à prendre pour soi et à garder serré au fond du cœur, tant au milieu de nos échecs retentissants que de nos fragiles ou grandes victoires. C'est à la croix et vers la grâce qu'il nous faut et nous faudra encore et toujours revenir. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre remède, introduit d'abord par la repentance au cœur d'un changement d'orientation de nos vies, enveloppé ensuite du cadeau de la grâce, comme je le répète, fondement unique et cadre unique de nos changements construits sur du solide. Nous sommes ensuite appelés, comme on l'a lu dans le texte de Romains 12 au début, à nous engager de toutes nos forces dans une vie de plus en plus cohérente, en conformité avec ce que nous avons reçu. C'est, pour terminer là-dessus, la suite de l'histoire du fils prodigue, celle qui ne nous est pas racontée. C'est la suite de la vie de ce jeune homme accueilli dans l'amour de son père. Comment va-t-il vivre ? On ne le sait pas, en fait. Mais nous ne pouvons qu'imaginer qu'il va dorénavant chercher à rester avec ce Père qu'il aime tant et à vivre toujours plus en adéquation avec ce pardon qui lui a été offert. Repentance, grâce et donc maintenant engagement. Et alors, si je reviens à nos trois exemples de double phase du début, où on peut vite tomber, on l'a dit, que veut dire engagement ? Eh bien, en ce qui concerne nos relations et nos comportements dans ce monde, face aux autres, je me dis que cela consistera sans doute à faire l'effort quotidien d'apprendre à voir l'autre tel que Dieu le voit. Et on sait que ce sera un effort quotidien. Il nous faudra nous répéter constamment des questions du type « Comment aurait réagi Jésus s'il avait été à ma place en face de lui ?» Quelles que soient là ou les situations. Mais je grandis en cohérence quand je me pose cette question jour après jour. En ce qui concerne nos modes de vie, je me dis que cela consistera sans doute à faire, là aussi, un effort pour réfléchir, individuellement ou dans nos foyers, à quelles sont nos priorités de vie. À partir de quelle perspective nous voulons considérer toutes nos actions? Comment vais-je gérer mon argent devant Dieu? Comment vais-je gérer mon temps devant Dieu? Qu'est-ce qui compte vraiment pour Dieu, en fait? Qu'est-ce qui a une vraie valeur à ses yeux? Et qu'est-ce que je peux peut-être apprendre à délaisser? Et enfin, en ce qui concerne notre conception de Dieu, cela consistera sans aucun doute à apprendre à approfondir notre connaissance de qui il est vraiment, de quelle est sa volonté, à travers la Bible, dans l'Église aussi. Tout simplement pour mieux connaître celui que je veux suivre, pour être plus proche de lui, pour avoir plus envie de le suivre aussi. Et oui, cela nous demandera des efforts, de la discipline aussi sans doute. Cela nous demandera certainement, en tout cas, du courage. Il faut du courage pour suivre le Christ. Courage pour se remettre en question. Courage pour faire les changements nécessaires aux besoins. Et courage aussi pour vivre ces changements au cœur d'une société qui ne les comprend pas et qui vit à l'opposé. Oui, il faut du courage pour cela et pour persévérer dans cette voie. Mais comment l'avoir, ce courage? Eh bien, peut-être d'abord en étant convaincu que ce n'est pas une partie perdue d'avance, en croyant que c'est possible de vivre toujours plus en adéquation avec les paroles du Christ. Et pour cela, regardons tout simplement tous ceux qui nous ont précédés et qui l'ont manifesté, ce courage. Pas de manière toujours parfaite, bien sûr, eux non plus, il ne s'agit d'idéaliser personne. Mais malgré tout, ils ont eu le courage de chercher à donner à leur vie une autre direction générale. Et on pourrait penser aux héros de la foi, à ceux de la Bible ou à ceux de l'histoire de l'Église. Mais les jeunes, eux, quand on a préparé ce culte, ils n'ont pas pensé à Abraham ou à Daniel. Ils n'ont pas pensé non plus à Mère Teresa ou à Martin Luther King. Non, ils ont pensé à quelqu'un d'autre, peut-être moins connu. Un autre exemple de courage et d'authenticité pour Dieu, au cœur d'événements contraires. Cette personne à laquelle ils ont pensé, c'est Desmond Doss. Connaissez-vous Desmond Doss? On vous invite à découvrir un petit peu de la vie de cet homme. Un homme ordinaire, né en 1919 et mort assez récemment, en 2006. Un homme ordinaire, oui, mais qui voulait vivre en accord avec ce qu'il croyait. Qui voulait vivre authentiquement sa foi. Et il disait la chose suivante. Comment pourrais-je rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois? Et c'est une belle question qui se pose aussi à nous. Comment pourrons-nous être nous-mêmes si nous laissons, par exemple, ces attitudes de double face prendre la place en nous sans les combattre? Desmond a vécu aux États-Unis, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et il voulait servir son pays. Il voulait aider à sa mesure, être acteur dans ce monde. Mais lui pensait ne pas devoir porter une arme pour cela. Il avait la conviction que Dieu l'appelait à autre chose. Et donc, il fit des choix radicaux. Et alors, la question n'est même pas tant ici de savoir si sa conviction était parfaitement juste. Je sais que c'est une réflexion qui est encore présente dans l'Église. Le chrétien est-il appelé à un pacifisme absolu? Ou, devant des situations tragiques de guerre, est-il de son devoir de se battre pour la justice? Profonde question. Et on n'entrera pas dans le débat aujourd'hui. Mais regardons juste l'exemple d'un homme qui a fait le choix, quoi qu'il arrive, de ne pas se laisser couler dans le moule de ce monde et d'adopter une attitude différente, intérieurement et extérieurement. Alors c'est bien parce que Mel Gibson en a fait justement un film, tout récemment, qui s'appelle « Tu ne tueras point », qui est un film, je le dis pour ceux qui voudraient le voir, très dur, mais en même temps vraiment un beau film. Et ce matin, on vous invite à regarder la bande-annonce de ce film. La bande-annonce tout simplement parce qu'elle est en fait un bon résumé de cette histoire. On vous invite à la regarder. En fait, il va sauver, tout seul et en une seule nuit, 75 soldats blessés qui avaient été abandonnés sur le champ de bataille. Et même, paraît-il, deux Japonais. En se répétant, heure après heure, la phrase qu'on a entendue à la fin. « Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. » Un bel exemple, dans un contexte très extrême, certes, mais un bel exemple de courage de la foi que nous proposent les jeunes ce matin. Et alors, sans doute, nous n'aurons pas tous de tels choix à faire, comme lui. Mais nous sommes néanmoins invités à regarder à ceux qui nous ont précédés pour vivre notre engagement à la suite du Christ. Cela nous montrera encore une fois que ce n'est pas illusoire de vouloir vivre en chrétien dans ce monde. Et puis aussi, et surtout, j'ai envie de dire, et ce sera d'ailleurs notre conclusion ce matin, on va terminer là-dessus, sur ce point clé. Surtout, regardons à Jésus-Christ. Encore une fois, qui est le seul exemple vraiment parfait d'une vie authentique et totalement dépourvue de double face. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit la chose suivante. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Il est intéressant ce passage. Et on voit le verset 1 nous parle, comme on vient de le faire, de tous ceux qui nous ont précédés, de cette foule de témoins que nous avons avant nous. Mais c'est encore le verset 2 qui semble essentiel, parce qu'il vient tout recentrer sur Jésus. Et il nous dit en particulier deux choses. Tout d'abord, que c'est lui qui nous a ouvert ce chemin de la foi. On en a parlé tout à l'heure, avec cette grâce offerte à travers son sacrifice. Mais aussi, et je terminerai avec ce point fondamental, ce chemin qu'il a ouvert, le texte nous dit que c'est également lui qui va le mener à la perfection. Et ça doit être une merveilleuse promesse pour nous devant la difficulté de nos doubles faces. Ce Jésus qui est mort pour nos fautes est aussi celui qui nous accompagne aujourd'hui dans cette route authentique. Il ne nous laisse pas seuls, il agit en nous, il œuvre en nous. Et c'est donc en recentrant tout sur lui que notre marche trouvera son sens. En particulier, c'est là qu'elle deviendra une marche paisible. Oui, paisible et pas crispée, parce qu'il a déjà tout accompli, qu'il nous a déjà tout offert. Toutes les bénédictions pour aujourd'hui et pour demain. C'est là qu'elle deviendra aussi une marche humble et équilibrée, car en lui et seulement en lui se trouvent nos espoirs de progression. Ce qui devrait nous éviter à la fois de sombrer dans un pessimisme décourageant, puisqu'il œuvre vraiment en nous, ou au contraire nous garder d'un orgueil démesuré et du sentiment qu'on est bien comme il faut, puisque ces mains qui ont été trouées à cause de moi me le rappellent bien. Et enfin, c'est là qu'elle deviendra une marche dynamique. Dynamique parce que motivée par un si grand amour et par la recherche de sa ressemblance à Jésus. Alors oui, attachons-nous à Jésus, attachons-nous à ses promesses, attachons-nous à son exemple et saisissons-nous de sa force et de ses mérites à lui. La route est devant nous, au point où nous en sommes parvenus. Avançons sur cette route et avançons-y ensemble, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.